Bonjour. Oui, c'est bien Christiane, avec cette voix d'outre-tombe, une voix profonde pour... Il en est encore temps, vous souhaitez tout de même une bonne année. Bienvenue dans le Jardin des mots, première émission de 2015. Les temps sont difficiles, on n'a pas forcément... Le temps n'est pas à l'euphorie, mais une belle année de rencontres et de lumière. Et puis, nous allons essayer tout au long de cette année de vous faire faire des découvertes dans le monde de la poésie, de la musique, dans le jardin des mots. Donc, pour ce faire, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yul.
Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour aux auditrices et auditeurs. Et voilà, on est dans ce petit studio de Fréquence Mistral où j'étais jamais venu. Et c'est très sympa. Et puis, il fait chaud en plus. Hein. C'est agréable l'hiver.
Et en plus, il fait chaud. Ça change un petit peu de Radio Zazine. C'est
oui,
parce que
je faisais des
dire.
Émissions sur Radio Zazine et je disais hors micro que là-bas, on avait un feu de bois. Et que si c'était les machines, par exemple, pendant quelques heures et qu'il n'y avait personne pour allumer le feu ou s'en occuper, et ben voilà, c'était un peu plus dur. Mais c'est l'hiver, c'est comme ça.
Tout à fait. Et puis, cela dit, le thème du jour qui est les poètes et le vin. Hein, va tenter de nous réchauffer par ivresse des mots surtout. Hein, et puis, de toute façon, devant nous, nous n'avons que des verres d'eau. Donc, voilà. Alors, Yul, tu es pas un inconnu, tant s'en faut, dans notre paysage basalpin. Cependant, tu restes très secret, je trouve, sur le site internet. On ne connaît pas Yul, on voit ses livres, on voit mes... Et moi, j'ai envie de poser une question un petit peu impertinente. Monsieur Yul, qui êtes-vous ?
Ah, qui je suis ? Alors, si je le savais, je crois qu'on met toute une vie à savoir qui on est. Mais bon, sans faire de psychologie ou de philosophie, je suis né à Antibes, mais j'y suis resté peu de temps. J'ai beaucoup voyagé avec mes parents. Mon père était enseignant, puis a terminé ses carrières dans les ambassades, notamment en Colombie. Et sinon, j'ai fait des études classiques, français, latin, grec. C'est pour ça que j'ai retraduit, même sur le vin, des textes latins et grecs que je vous livrerai tout à l'heure. Et puis après, j'ai fait 6 ans d'études pour être architecte. Et très rapidement, comme la peinture me plaisait et que ça marchait, j'ai arrêté l'architecture pour faire de la peinture. Voilà. Et après, pour venir à ce qu'on appelle le livre d'artiste.
Alors oui, parce que moi, c'était donc dans une autre vie, hein, il y a fort, fort, fort longtemps. Je crois qu'à l'époque, je m'occupais de la fête de l'écriture à Théoul-sur-Mer, la première fois que j'ai entendu parler de Yul. Et je me rappelle de ce premier livre de vous que j'ai découvert, qui était un petit rouleau de papier parchemin, de très très joli papier, manuscrit, qui était lové dans un petit tronçon de bambou.
Oui, c'est ça.
Et voilà. Et notre première rencontre, elle date de ce temps-là. Donc, comment on en arrive à vouloir que le livre soit tout à fait autre chose que ce à quoi nous sommes habitués ? Est-ce que c'est la mise en valeur d'un texte ? Est-ce que c'est l'esthétique de l'objet ou bien le coup de foudre et la rencontre ?
C'est vrai que c'est un... Pour moi, j'aime bien le terme d'Yves Perret, bibliothécaire, qui parle de livre de dialogue, parce que c'est vraiment un dialogue à la fois avec le poète avec lequel je travaille, bien sûr, à la fois avec les papiers que parfois je fabrique moi-même, avec les illustrations, les peintures que je fais, les matériaux, et in fine le dialogue avec le public hein, qui regarde ce genre d'ouvrage. D'ailleurs, ce sont autant des livres à voir qu'à lire et même à toucher. Malheureusement, souvent c'est en vitrine dans les médiathèques, mais c'est vrai que le toucher, c'est important aussi. C'est venu avec un poète algérien en 1987 qui avait vu une de mes expositions de peinture et qui m'a demandé si j'illustrerais ses poèmes. Il me les a passés, j'ai aimé, voilà. Et là, c'était un livre avec des formes à peu près de livre, disons, rectangulaire. Et puis, peu à peu, je suis venu à différentes formes, à cette nouvelle livrité, entre guillemets, qui m'intéresse, voilà.
Et ensuite sont venus... Alors d'abord le travail avec des textes anciens, hein. Héraclite notamment, voilà, qui est un merveilleux petit livre. Tu peux en dire 2 mots ? Parce que moi, je l'ai,
voilà,
donc je sais très bien de quoi il retourne.
Alors Héraclite, oui, je disais que j'avais fait des études classiques, donc je me suis remis au grec ancien parce que je trouvais que les traductions d'Héraclite, c'était traduit par des phrases très françaises, donc très latines, alors que le grec est une langue très concise, très aphoristique. Souvent le verbe être, estigne, il est elliptique, on le met pas, on met 2 points, etc., virgule. Et je trouvais que, à la lumière des aphorismes de Char ou de Camus ou des haïkus, on pouvait se permettre ce genre de traduction concise, parce qu'Héraclite, c'est très contemporain dans le fond, mais dans la forme, ça n'était pas, justement. Voilà ce qui m'a fait revenir, par exemple, au grec ancien. Voilà.
Bien, alors, on va essayer d'émailler toute notre rencontre autour des poètes et du vin. Donc, je vais te laisser la parole après un petit moment, une petite pause musicale.
Bien sûr. Alors d'abord, je parle ou on fait la petite pause d'abord ?
Comme vous voulez, maître.
Allez, je commence. Oui, je commence quand même 5 minutes. Alors pour le vin, ce qui est intéressant, ce qui m'a intéressé sur ce thème, c'est qu'il y a agriculture et culture qui sont vraiment liées. Hein, c'est ce qui est important. Il y a plus que du vin dans un verre de vin. C'est la convivialité, c'est beaucoup de choses. En Géorgie, on a trouvé déjà des pépins de raisin datés du 8000 avant Jésus-Christ. Au carbone 14, on peut voir un petit peu tout ça. Donc c'est vraiment plus vieux que les Grecs et les Latins. Mais je vais simplement dire deux mots de la symbolique du vin dans l'art grec et romain. Alors dans l'art grec, bien sûr, il y a le pichet, il y a la main qui est représentée. Souvent, la bouche n'est pas représentée chez les Grecs. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. À une certaine époque, il y a la grappe qui est le premier symbole donc, qui résulte de la maîtrise de la vigne. Et également, on la retrouve sur des pièces de monnaie, des vases, des amphores. Elle a inspiré des sculpteurs comme l'Hermès de Praxitèle qui fait miroiter des raisins à l'enfant. Alors, c'est l'attribut de Dionysos, hein, le symbole du pouvoir-faire, donc Dionysos, le dieu du vin. Il y a le pichet et la coupe, la kylix, hein, qui participent de cette opération narrative. La main est très représentée, parce que la main, c'est le pouvoir-faire de l'homme, hein, et la main fait l'homme, comme disait Anaxagore d'ailleurs. Et enfin, parfois, la bouche n'était pas représentée. Pourquoi ? Parce qu'à une époque, chez les Grecs, c'était un peu... il y avait trop de sexualité dans la bouche. Alors, c'est drôle parce qu'il y avait des scènes de libation, on voyait dépasser des fois une fesse ou un sein. Mais par contre, la bouche, il y avait soit le joueur de pipeau, soit les convives avec leur kylix, leur coupe devant la bouche. Et pendant une certaine époque, on ne la représentait pas. Voilà. Et d'ailleurs, Hegel disait lui-même que la bouche était porteuse d'animalité. Bon, il a dit aussi que le vin était le miroir de l'âme, quelque part aussi. Voilà. Alors, si vous voulez, du temps des Romains, par contre, du temps de César, c'était important de savoir comment on commerçait avec le vin. Alors, il y avait soit par la mer, puisqu'on a retrouvé des amphores, bien sûr, le vin était dedans, soit à dos de mule avec des tonneaux, et les Romains traversaient les Alpes avec le vin. En Gaule, chez nous, ils les échangeaient contre des esclaves le plus souvent, et ils allaient jusqu'à l'île de Wight, donc vers l'Angleterre, là-bas, pour échanger contre de l'étain. Et pendant longtemps, ils ne voulaient pas que la vigne se développe dans la Provence, qui était la provincia romaine. Puis à une certaine époque après, de riches patriciens romains sont venus s'installer et ont planté de la vigne. Et après, bien sûr, il y a eu depuis, on a toujours eu de la vigne en Provence. Mais voilà comment ça se passait. Alors après, avant de faire une première pause, on va parler des symboles du vin. C'est vrai que ça console des petitesses un petit peu de la vie. Il faut supporter les soucis ou la pauvreté. Il y a Horace qui en offre à son ami Mécène pour l'inciter, dit-il, à oublier les affaires sérieuses de Rome. Le vin aussi, c'est un anxiolytique, hein, au sens propre du terme. On le sait bien, hein, ça dissipe les craintes. Et voilà. Et ça console aussi de la brièveté de l'existence et de son issue. D'ailleurs, souvent, les riches patriciens romains se faisaient inhumer. Dans leur caveau, il y avait la petite coupe de vin pour traverser le fleuve sacré, hein, le Styx, et également une petite amphore, toute petite, avec du vin dedans. Bien sûr, ils partaient en voyage, voilà, quand ils mouraient. Et c'est drôle parce qu'on a la chanson bourguignonne encore, « Si je meurs, je veux qu'on m'enterre dans une cave avec du bon vin ». Donc, on voit que tout ça dure, hein. Alors après cette consolation et cet art funéraire, il y a la célébration, bien sûr, hein. Alors c'est la sociabilité, c'est l'amitié. Mais par contre, les dieux du vin, que ce soit Dionysos chez les Grecs ou Bacchus chez les Romains, disaient attention, on boit du vin pour nous honorer, nous célébrer, mais il ne faut surtout pas rouler sous la table. Et à ce sujet, je vais terminer cette première intervention avec un poème de Eubule, voilà, qui est assez concis, vous verrez, qui écrit vers 175 avant Jésus-Christ. Eubule, c'est un poète grec, donc à l'égard du vin, voilà ce qu'il dit. « Je mélange 3 bols, donc je pense que c'est des petits bols quand même, hein, pour ceux qui sont sobres. Un pour la santé, qu'il vide en premier. Le deuxième pour l'amour et le plaisir. Le troisième pour le sommeil. Quand ce dernier est vide, les hôtes avisés rentrent chez eux. Le quatrième bol n'est plus à nous, il appartient à la violence. Le cinquième au tapage, le sixième aux amusements d'ivrogne, le septième aux yeux pochés, le huitième est aux policiers, le neuvième appartient à la crise de foi et le dixième à la folie et au vandalisme. »
Ça
Alors, nous avons bien compris qu'après trois vers, on arrête là. Mais l'ivresse, l'ivresse, c'est aussi l'ivresse des mots, c'est l'ivresse du regard aussi. Et je ferai un petit bond sur la beauté des livres que moi j'appelle livres singuliers. Donc, parmi les poètes contemporains, donc, tu mets un point d'honneur, non, ce n'est pas le bon terme, à travailler avec l'écriture du poète avec lequel tu choisis de travailler. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ça. Pourquoi ce choix de... Parce que l'écriture, c'est quand même le miroir de ce que l'on est. Hein. Donc, ça donne des collections de livres assez, assez étonnantes et qui également incluent une géométrie. Les livres ne sont pas de petits rectangles ou de petits carrés, hein, mais peuvent être un éventail, un bateau ou je ne sais quoi. Voilà, alors j'aimerais que tu nous dises un petit peu pourquoi ce choix.
Oui, c'est vrai que j'ai deux manières de travailler. D'abord, il y a les livres imprimés, c'est là je m'inspire des poètes, disons. Et là, je suis un petit peu quand même l'illustrateur, le metteur en scène de mots, comme j'aime dire, puisque je travaille aussi la forme du livre, toujours avec des peintures originales, d'ailleurs jamais de reproduction dans mes livres. Et bien sûr, là, il y a aussi des poètes que je n'ai pas connus, que ce soit Giono, je parlais d'Héraclite, etc., ou Saint John Perse ou d'autres. Et il y a les poètes contemporains. J'ai fait quelques livres imprimés avec certains, mais je fais surtout beaucoup de livres manuscrits, donc j'en viens un peu à ce que tu disais. Alors là, c'est l'inverse. J'inverse la proposition. C'est moi qui donne des petits livres tout faits et tout peints aux poètes. Et c'est moi qui les inspire, donc je ne suis plus illustrateur. C'est lui qui va mettre et faire sa mise en page, le sens de son texte, etc. Quelques exemplaires, bien sûr. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que déjà à l'époque où on nous dit le livre va disparaître, il y a le numérique, etc., c'est étonnant pour moi de revenir à l'avant Gutenberg avec ses livres manuscrits. Et comme tu disais, dans l'écriture, il y a énormément de choses. D'ailleurs, entre écrire une lettre en tapant sur un ordinateur avec des touches et soi-même, et réécrire, pas forcément avec la plume d'oie, mais avec simplement un stylo, c'est un acte complètement différent. Voilà, et c'est ce qui me plaît beaucoup dans ces livres manuscrits. Et là, je travaille avec une centaine de poètes, on peut dire vraiment du monde entier, puisqu'il y a aussi bien au Canada que des Croates ou ailleurs. Et c'est ce qui me plaît quand je reçois souvent par la poste, comme un petit cadeau, les livres que me renvoient les poètes, on se partage, voilà, on en prend chacun la moitié. Et c'est vrai, il y a quelque chose de plus humain dans ce manuscrit où des fois il y a des petites ratures, où des fois on sent que le mot, il n'y avait pas vraiment la place pour le mettre, donc on l'écrit tout petit à la fin de la ligne. Voilà, j'aime beaucoup ce travail du manuscrit.
Alors on sait bien combien je suis attachée aux rencontres, hein, et je voudrais quand même revenir sur ce que tu viens de dire, qui est quand même pour moi très très beau et très, très porteur. Nous avons bien entendu que c'est toi qui fabriques le corps du livre, on va dire, qui le leur envoie ou qui le leur donne pour qu'ils écrivent là-dessus. Et tu as dit « lorsque je reçois comme un cadeau ». Et j'ai bien là la dimension qui, pour moi, te caractérise, hein, ce don qui est dans les deux sens. Voilà, c'était juste un petit constat, parce que je crois que c'est vraiment comme ça que le travail se fait avec toi, et c'est quelque chose qui est assez fascinant. Alors, pour utiliser ces livres, moi, j'appelle cela les livres singuliers, hein. On le sait bien. Et là, ils sont quand même très, très singuliers. Et dans ces singularités-là, tu as quand même un complice privilégié, presque. Alors, je dis le nom ou tu le dis ?
Tu penses à Michel Butor, voilà. Absolument. Que tu connais bien, toi aussi, qui va avoir 89 ans cette année. Michel Butor, c'est toute une partie de la littérature française, même si beaucoup ne connaissent que La Modification ou Le Passage de Milan, Prix Renaudot, le nouveau roman qui l'ont rendu célèbre il y a plus d'un demi-siècle. Voilà. Avec lui, il faut dire que pour lui, j'ai fabriqué, puisqu'il y a plusieurs exemplaires, j'ai fabriqué un peu plus d'un millier de livres, pas un par un, qui m'a manuscrit un par un. Voilà. D'ailleurs, le 16 mai, pour la Nuit des Musées, il y aura l'inauguration d'une grosse expo Butor au Muséum départemental de Gap, donc dans les Hautes-Alpes, où je présenterai justement tous les livres que j'ai faits avec Michel Butor. Voilà. C'est la première fois que je présenterai tout ce travail, parce que tu sais, comme moi, que dans les médiathèques, il n'y a pas assez de place pour mettre autant de livres, parce qu'il y a toujours des étagères, il y a toujours d'autres livres, d'autres choses.
Alors, on va essayer de supprimer les livres des bibliothèques pour que
pour
tu puisses faire des expositions.
Voilà, ne mettre que le travail avec Michel Butor.
Je pense que nous aurions peut-être quelques difficultés.
Voilà.
Quand même.
Et si on travaille autant ensemble, c'est parce que c'est une rencontre humaine. Et quand je parlais de saisie et de cadeaux, c'est vrai que quand je travaille avec les poètes et eux avec moi, on accepte les propositions de l'un et de l'autre. Il y a des choses plus ou moins réussies. On ne se juge même pas. L'important, c'est de faire ensemble, de se faire plaisir et de se faire confiance. Et si après ce plaisir est partagé par d'autres, eh ben, c'est réussi, ça. Ça n'en est que mieux.
Et oui. Le côté un petit peu frustrant, c'est qu'on a bien entendu ce livre... Ces livres, tu les fabriques, entre guillemets, à 3 ou 4 exemplaires, je crois. Donc, les bibliothèques ont quand même très peu de chances d'arriver à acquérir une belle collection.
Oui, c'est vrai que c'est pas évident, mais des fois on me dit, mais pourquoi en faire si peu, etc. Bah oui, les manuscrits, les faire un par un, c'est ça aussi, hein. Et puis on peut permettre de s'amuser. Dernièrement, j'ai fabriqué un papier avec des nids de guêpes. C'est plutôt les guêpes qui ont fabriqué ce papier mâché pour moi, mais j'ai pensé qu'en effet, on pouvait faire des couvertures de livres avec ça. Alors que si on faisait 100, 200 livres, on n'emploierait pas les mêmes papiers, on en ferait pas artisanalement autant. C'est ça aussi. Mais par contre, les bibliothèques qui en achètent, comme la médiathèque départementale, lors du Printemps des Poètes, d'autres manifestations, l'art de mai, les présentent ou m'invitent aussi à en présenter d'autres, à en parler. Donc finalement, il y a quand même une petite diffusion. Et puis je travaille aussi avec des poètes qu'on ne connaît pas tellement, comme ce poète algérien avec qui j'ai commencé, Abbas Boulal ou Elisa Parr, parce qu'on me dit oui, tu travailles aussi avec André Velter, Bernard Noël, des poètes connus. Non, il y a aussi des gens dont je suis le premier éditeur, le micro-éditeur, si je puis dire.
Et oui, tout cela renforce ce côté que je découvrais un petit peu de toi tout à l'heure, ce côté un petit peu mystérieux et secret. Est-ce qu'on continue notre tour du monde pour
Allez, on continue avec la poésie.
Historique.
Voilà, donc on va finir avec quelques textes un petit peu latin et grec pour après passer à d'autres poètes. Justement, j'ai retraduit quelques textes grecs sur le thème du vin. Hippocrate, qui était médecin, par exemple, vous verrez qu'en parlant du vin, il se mouillait pas trop, si on peut dire. Il disait « En absorbant de l'hydromel, donc c'est du vin avec du miel, sans décoction et sans autre boisson dans les maladies aiguës, on s'en trouvera souvent mieux et rarement plus mal. » Alors, une très belle image, là, c'est de Caton dans son traité de l'agriculture. Voilà. « In campano agro populis nubunt, maritasque complexe, atque per ramos et arom, procassibus brachis, geniculato cursus candantes, cacumina equant, in tantum sublimes ut vindemitor, octoratus rogom actumulum excipiat. » Ça, c'était le latin. En français, « En campagne, on marie les vignes aux peupliers, enlaçant leur époux, elles montent de branche en branche de leurs bras amoureux, en atteignent la cime dans leur course noueuse à une telle hauteur que le vendangeur lui donne à coup sûr bûcher et tombeau. » Donc, il y a la vie, l'amour et la mort là-dedans. Alors, Pline l'Ancien, dans ses histoires naturelles, ça, je trouve ça très rigolo, mais je vous dis uniquement en français, « Le vin fait aussi des miracles. En Arcadie, il y en a un qui rendit-on les femmes fécondes et les hommes enragés. » Je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais voilà.
C'est la question que j'aurais perfidement posée.
Voilà. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va commencer en poésie au 7e siècle avec Lippo. Lippo, son père, était un riche marchand chinois, très instruit, qui a été son précepteur. Il aimait la nature, il écrivait des poèmes sur le travail des hommes. Et voilà son poème qui s'appelle « Buvant seul sous la lune ». Au milieu des fleurs, un pichet de vin, je bois seul, sans compagnon. Levant ma coupe, je convie la lune claire. Avec mon ombre, nous voilà trois. La lune, hélas, ne sait pas boire. Mon ombre en vain ne fait que suivre. Compagne d'un moment, lune et ombre. Réjouissons-nous, profitons du printemps. Je chante. La lune musarde. Je danse. Mon ombre s'égare. Encore sobre, ensemble, nous nous égayons, nous nous séparons. Mais notre union est éternelle au-delà de l'amitié. Au loin, nous nous retrouvons sur le fleuve céleste. Alors, on passe au Xe siècle avec un drôle de citoyen. C'est un poète arabe qui s'appelait Aboul Kassim Al-Tamini, qui était très érudit, mais il gagnait sa vie, comme avec la poésie, c'est pas évident, il gagnait sa vie en insultant son prochain et en monnayant son talent. C'est-à-dire, si quelqu'un vous avait fait un sale coup, le jour du marché, il vous le montrait sur la place publique, il allait, puis il l'insultait, et comme paraît-il, il était assez baraqué, ben les autres voilà, étaient vraiment, avaient honte et partaient honteux. Voilà Abou Al-Sam Al-Tamini. Alors, un de ses poèmes qui s'appelle « Entre deux vins ». Rouge avant le mélange et fauve après, le vin apparaît entre deux tuniques et nous offre son corps entre deux fleurs, l'une de narcisse, l'autre d'anémone. Pur, il est à l'image de la joue rougissante de la jeune fille aimée, et livré au mélange, il a la couleur de la joue d'or pâlie du bel amant. Alors pour ces poètes, avant de faire une autre pause, je vais passer aussi un peu dans le même genre de civilisation à Omar Khayyam, bien sûr, à l'Héroubaïat, quand on parle du vin. Voilà, qui était à la fois philosophe, physicien, mathématicien. On est déjà au XIe siècle, XIe et même début du XIIe. Alors ce qui est bien, c'est Omar Khayyam, c'est vrai que c'est à la fois de la philosophie, c'est magnifique ce qu'il écrit. « Aujourd'hui refleurit la saison de ma jeunesse. J'ai le désir de ce vin d'où me vient toute joie. Ne me blâme pas. Même âpre, il m'enchante. Il est âpre parce qu'il a le goût de ma vie. Bien que le vin ait déchiré mon voile, tant que vivra mon âme, je ne le délaisserai pas. Mais vraiment, ceux qui vendent le vin m'étonnent. Que peuvent-ils acheter de meilleur que ce qu'ils vendent ? Le vin est défendu, car tout dépend de qui le boit, et aussi de sa qualité et de la compagnie du buveur. Ces trois conditions réalisées, tu peux dire, qui donc boit du vin si ce n'est le sage ? Ceux dont les croyances sont basées sur l'hypocrisie veulent faire une distinction entre l'âme et le corps. Moi, je sais que le vin seul a le mot de l'énigme et qu'il donne conscience d'une parfaite unité.
Alors moi, je suis très impatiente d'avoir la suite de cette histoire-là. Puisque ce tour du monde, à la fois, est quand même nous fait rêver. Et je retiens aussi que déjà, mais on y reviendra probablement, cette poésie est un peu contestataire, un peu révolutionnaire, un peu... On ne dit pas en poésie les choses de la même façon, et je pense qu'elles ont un poids plus important, souvent.
C'est étonnant, parce que dans les poètes sur le vin, on trouve les deux choses. Certains qui jurent ou qui parlent du diable, etc. Et aussi, certains qui disent, vous allez voir, on voit son sauveur face à face, etc. Il y a Dieu, ben, il y a le vin de messe aussi, évidemment, c'est lié. Hein. Et c'est pour ça que c'est toute notre culture. Voilà. Alors là, je vais dire un poème de Jean Molinet. On arrive déjà au 15e siècle, qui était historiographe de Charles le Téméraire, donc à la cour de Bourgogne. Et là, il a écrit le dictier des 80 François, des 80 Français. Le premier vin est intéressant parce qu'il parle un petit peu de l'origine du vin. Premier est le vin de Paris, qui est tout plein du Saint-Esprit. Quiconque le savoure bien, il connaît le mal et le bien. Il voit les cieux, il voit les anges. Il voit les abîmes étranges, il voit son sauveur face à face. Qui en boit n'est rien qu'il ne sache pour ce qu'il aiguise l'angien. L'angien, c'est l'esprit. L'appelle-t-on théologien. Philosophes, maîtres, docteurs, juristes et grands orateurs en boivent de grandes potées et en font soupers et toastés. Ce n'est point pour gloutons petits qui ont de friands appétits. Ce vin-ci confie en science, prit son premier grain et semence en Athènes, puis vint à Rome. Charlemagne en planta grand somme, en Paris, cité de renom, dont il porte encore le nom. Voilà, mais à Paris, je crois qu'il reste quelques vignes à la butte Montmartre,
hein,
qu'on vend chaque année, mais pas grand-chose. Alors, quelqu'un qui m'a vraiment déçu, c'est Montaigne. Parce que dans les Essais, livre 2, chapitre 2, il parle du vin. Mais Montaigne, vous allez voir, c'est plutôt santé, sobriété.
Eh oui, c'est Montaigne.
Voilà. Or, l'ivrognerie, entre les autres, me semble un vice grossier et brutal. L'esprit a plus de part ailleurs. Il y a des vices qui ont je ne sais quoi de généreux, s'il le faut ainsi dire. Il y en a où la science se mêle, la diligence, la vaillance, la prudence, l'adresse et la finesse. Celui-ci est tout corporel et terrestre. Aussi la plus grossière nation de celles qui sont aujourd'hui, et celle la seule qui le tient en crédit. Les autres vices altèrent l'entendement, celui-ci le renverse et estonne le corps. Alors là, on fait un bond au XVIe, XVIIe siècle. Vous connaissez de nom certainement le physicien et astronome Galileo Galilei, dit Galilée. Alors, quand on pense que c'était un scientifique et qu'il a découvert entre autres les taches du Soleil, là j'ai deux lignes magnifiques. Le Soleil, avec toutes ses planètes qui gravitent sous sa gouverne, prend encore le temps de mûrir une grappe de raisin comme s'il n'y avait rien de plus important.
C'est magnifique.
Alors, on va continuer. Alors, c'est vrai que j'en ai beaucoup, mais Baudelaire. Alors, Baudelaire, je vais vous lire un seul poème de lui. C'est le vin de... Parce qu'il y a le vin des amants, etc. Le vin de l'assassin, je vais vous lire celui-là. Il est vraiment, vraiment magnifique. Baudelaire, donc, 19e siècle, un peu l'esprit critique, la romantique, à la source de la modernité. Alors, vous allez voir... Moi, je dis c'est un roman policier, le vin de l'assassin. Vous allez voir, ça commence vraiment très bien. « Ma femme est morte, je suis libre. Je puis donc boire tout mon sou. Lorsque je rentrais sans un sou, ces cris me déchiraient la fibre. Autant qu'un roi, je suis heureux. L'air est pur, le ciel admirable. Nous avions un été semblable lorsque j'en devins amoureux. L'horrible soif qui me déchire aurait besoin pour s'assouvir d'autant de vin qu'en peut tenir son tombeau. Ce n'est pas peu dire. Je l'ai jetée au fond d'un puits et j'ai même poussé sur elle tous les pavés de la Margelle. Je l'oublierai si je le puis. Au nom des serments de tendresse, dont rien ne peut nous délier, et pour nous réconcilier, comme au beau temps de notre ivresse, j'implorai d'elle un rendez-vous, le soir, sur une route obscure. Elle y vint, folle créature, nous sommes tous plus ou moins fous. Elle était encore jolie, quoique bien fatiguée, et moi je l'aimais trop, voilà pourquoi je lui dis, sors de cette vie. Me voilà libre et solitaire. Je serai ce soir ivre-mort. Alors sans peur et sans remords, je me coucherai sur la terre. Et je dormirai comme un chien, le chariot aux lourdes roues chargé de pierres. Et debout, le wagon enragé peut bien écraser ma tête coupable ou me couper par le milieu. Je m'en moque, comme de Dieu, du diable ou de la sainte table. »
c'est que aujourd'hui, je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec ma crève. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, je suis ravie de découvrir aussi des poètes comme ça dont nous n'entendons pas forcément souvent parler, ni souvent lu de cette façon-là. Et c'est vrai qu'il n'est peut-être pas très moral aujourd'hui de faire l'apologie du vin par les temps qui courent. Hein. Mais c'est vrai qu'on a quand même enlevé quelque chose à notre convivialité, là. Moi, j'avais un grand-père, tiens, je vais vous raconter ma vie. Mon grand-père a été enterré avec un saucisson et une bouteille de vin rouge.
Ah, ben voilà, comme mon certains romains dont je parlais. Grand-père. C'est bien, oui. Ouais.
Bien. Alors, moi, j'avais envie de revenir un tout petit peu avant de reprendre notre itinérance sympathique. En écoutant tout ça, on sent bien que le poids des mots, l'ivresse provoquée par les mots aussi. Et je pense juste que cette année, au mois de mars, le printemps des poètes, sera quand même l'insurrection poétique.
Oui.
Insurrection poétique, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire là. Et je sais que tu as un répertoire assez, assez remarquable là-dessus. D'abord, avant d'en reparler, quelle est pour toi la force première de la poésie ?
Bah, la force première de la poésie, pour moi, c'est déjà que... Pour moi, c'est la partie du langage de la langue qui se rapproche le plus de l'art. C'est pour ça que je suis bien avec mon travail de plasticien. Parce que la poésie, c'est l'imaginaire, c'est la façon de faire jouer les mots d'une autre manière, parfois même d'en inventer. Même quand je dis jouer, c'est vrai qu'on voit les surréalistes ou l'Oulipo, par exemple, avec Raymond Queneau, ont vraiment joué avec les mots. Pour moi, c'est tout ça, à la fois par la forme et par le fond. Et une manière, quelque part, de s'évader de notre vie, d'aller ailleurs, puisque c'est un art. Voilà. Et moi, je mets la poésie vraiment dans la créativité, quelque chose de fort. Et puis aussi, j'aime bien dire des poèmes, parce que la poésie, n'oublions pas que pendant très longtemps, avec les trouvères, les troubadours ou les griots dans certains pays que tu connais bien, Christiane, c'est l'oralité. C'est ce que tu fais avec tes rencontres de la parole chaque été ici, ou ce sont des contes. Mais les contes, la poésie, c'est cette oralité aussi, il ne faut pas l'oublier.
Et alors, à plusieurs fois, on entend souvent dire, d'ailleurs, enfin souvent, oui, dans ce monde-là, quelque chose qui relèverait en poésie de l'écriture du corps, c'est-à-dire que l'esprit n'est pas présent sur l'écriture de la poésie. Souvent, on entend des gens dire « je n'ai aucun souvenir d'avoir écrit cela », parce que, bon, voilà, donc la poésie serait complice avec le cœur, avec un sentiment plus profond qui se dédouanerait des contingences intellectuelles.
Oui, ce qu'essayait, mettant par exemple les surréalistes avec l'écriture automatique. Mais là, moi, je crois que là, il y a différentes formes de poésie. Et il y a cette forme de poésie aussi. Par exemple, c'est vrai que la poésie, ça part de Prévert, son premier recueil paroles, qui est assez simple et mais touchant, mais qu'on peut apprendre déjà à l'école, jusqu'à la poésie philosophie d'un Philippe Jacotet, d'un René Char ou autre. Hein. La poésie, c'est très large aussi. C'est comme quand on dit la peinture ou la musique, il y a le jazz, il y a le rock, il y a ci, il y a ça, il y a le classique. Hein, je crois que l'avantage, c'est qu'avec l'art, il y en a toujours qui cherchent des limites et qui les repoussent.
Et c'est bien.
Oui, c'est ce qui est intéressant.
Et c'est ce qui est intéressant, tout ouais. à fait. On continue notre petit voyage ?
On va continuer avec...
Où en sommes-nous ?
Alors là, on est au 19e siècle maintenant avec Apollinaire. Hein. Apollinaire qui a écrit Alcool. Hein. Lui aussi, c'est quelqu'un d'important pour le vin. Alors, c'est la nuit rhénane. Apollinaire, bien sûr, qui était chantre de toutes les avant-gardes. Hein. Les peintres, il a écrit sur les peintres cubistes. Il y a ses fameux calligrammes sur Alcool aussi. Hein. L'Esprit Nouveau et les Poètes aussi, en 1917, je crois. C'est vraiment quelqu'un d'important dans notre culture. Nuit rhénane, mon verre est plein d'un vin trembleur comme une flamme. Écoutez la chanson lente d'un batelier qui raconte avoir vu sous la lune sept femmes tordre leurs cheveux verts et longs jusqu'à leurs pieds. Debout chanter plus haut, en dansant une ronde, que je n'entende plus le chant du batelier, et mettez près de moi toutes les filles blondes, regard immobile, aux nattes repliées. Le Rhin est ivre où les vignes se mirent. Tout l'or des nuits tombe en tremblant s'y reflété. La voix chante toujours à en râle mourir ces fées aux cheveux verts qui incarnent l'été. Mon verre s'est brisé comme un éclat de rire. Alors là, je trouve ça très drôle. C'est la fin d'un petit texte de Constantin Cavafy, grand poète grec, bien sûr, 1863-1933. souvent inspiré par l'Antiquité, la mythologie. Mais là, il avait raconté dans ce poème, c'est l'histoire de deux jeunes amoureux, mais vraiment tout jeunes, des adolescents. Et voilà la fin de ce petit texte. Et plein de joie et de vigueur, radieux de beauté, ils se rendirent non pas dans leurs honnêtes familles, où d'ailleurs on ne voulait même plus d'eux, mais dans une maison de débauche qui leur était familière, d'allure spéciale. Et là, ils demandèrent une chambre et des boissons coûteuses, et de nouveau, ils se mirent à boire. Et lorsque les boissons coûteuses furent épuisées, lorsqu'il fut près de 4 heures, ils se livrèrent heureux à l'amour.
C'est joli.
Après, on va passer à Pessoa. Toujours les poètes et le vin, 19e, 20e siècle. Alors, il ne parle pas spécialement du vin dans ce poème. Il cite la fièvre au fond de toutes les coupes, c'est tout. Mais je vais parler du grand poète portugais Fernando Pessoa, qui est mort en 1935 et qui a écrit des choses qui sont très contemporaines, comme ce que vous allez voir là. Toute sa vie, il travaillait dans un petit comptoir commercial à faire des comptes. Il vivait la plupart du temps dans une chambre d'hôtel, toute sa vie à Lisbonne. Et en rentrant de son travail à pied, il passait par son petit bar avant de retrouver sa chambre d'hôtel et il buvait. Alors s'il était pressé d'aller écrire, il se mettait au comptoir. Sinon, il s'asseyait à une table qui, en rentrant à gauche du comptoir, j'y suis allé dans ce bar et ils ont mis à sa place une statue de Pessoa qui est assis là, voilà. Et à la fin de sa vie, on a retrouvé, quand il est mort, dans une malle, beaucoup de manuscrits. Et il avait été publié, mais très peu, hein, de son vivant. Et c'est là qu'on a vu que c'était un poète magnifique. Alors je me suis permis de prendre une strophe ici, une strophe là, pour composer justement, vous faire rencontrer ce grand poète Fernando Pessoa. Je pense à ce qu'il me restera de cette vie fragmentée, de cette tranquille turbulence de sensations contradictoires, de cette fièvre au fond de toutes les coupes, de cette angoisse au fond de tous les plaisirs, de cette satiété anticipée. La vie me donne-t-elle trop ou bien trop peu? La vie finit par donner envie de pousser des cris, de bondir, de rester à terre, de sortir de toutes les maisons, de toutes les logiques et de tous les balcons, de bondir sauvagement vers la mort parmi les arbres et les oublis. Je ne sais pas être utile, fût-ce dans mes sensations, être pratique, être quotidien, net, avoir un poste dans la vie, avoir un destin parmi les hommes. Je sympathise avec certains hommes pour leur qualité de caractère, et avec d'autres encore, je sympathise pour leur manque de ces qualités. Et avec d'autres encore, je sympathise par sympathie pure. Il y a des moments absolument organiques qui embrassent toute l'humanité. Ma bouche a reçu les baisers de toutes les rencontres. Dans mon cœur se sont agités les mouchoirs de tous les adieux. Tout passe, toutes les choses, en un défilé qui m'est intérieur. Et toutes les cités du monde, en moi, font leur rumeur. Mon cœur tribunal, mon cœur marché, mon cœur banc de jardin public, auberge, cachot numéroté, mon cœur paillasson, pont, gris, voyage, vente aux enchères, mon cœur papier, bagage, limite, marge, abrégé, index, et là, mon cœur bazar. Dormir ainsi qu'un chien errant sur la route, au soleil, définitivement étranger au restant de l'univers, et que les voitures me passent sur le corps. J'ai couché avec tous les sentiments, j'ai été souteneur de toutes les émotions, tous les hasards des sensations m'ont payé à boire, j'ai fait de l'œil à toutes les raisons d'agir, j'ai été la main dans la main avec toutes les velléités de départ, fièvre immense des heures, angoisse de la forge des émotions. Ha, pouvoir rire, rire effrontément, rire comme un verre renversé, fou absolument, du seul fait de sentir. Moi, ce dégénéré supérieur, sans archives dans l'âme, sans personnalité avec valeur déclarée. Moi, l'investigateur solennel des choses futiles,
Moi qui serais capable d'aller vivre en Sibérie pour le seul plaisir de prendre cette idée en aversion et qui trouve indifférent de ne pas attacher d'importance à la patrie. Moi, l'enfant dans la poussette qui fait des signaux à son inconscience lucide avec un hochet à grelot. Tous les matins sont le matin et la vie. Toutes les aurores brillent au même endroit, l'infini. Toutes les joies d'oiseaux viennent du même gosier. Tous les tremblements de feuilles sont du même arbre. Roule, grande boule fourmilière de conscience, terre. Roule teintée d'aurore, chapée de crépuscules, d'aplomb sous les soleils, nocturne. Roule dans l'espace abstrait, dans la nuit à peine éclairée, roule. Mange des chocolats, fillette, mange des chocolats. Dis-toi bien qu'il n'est d'autre métaphysique que les chocolats. Dis-toi bien que les religions toutes ensemble n'en apprennent pas plus que la confiserie. Mange, petite malpropre, mange. Puissais-je manger des chocolats avec une égale authenticité? Mais je pense, moi, et quand je retire le papier d'argent, qui d'ailleurs est déteint, je flanque tout par terre, comme j'y ai laissé ma vie.
Voilà, Fernando Pessoa, vous voyez.
Très beau montage, je trouve. Parce qu'on a l'impression d'être avec un kaléidoscope, là.
Oui, j'ai essayé de montrer un peu plusieurs facettes, plusieurs appréhensions du monde, plusieurs réflexions.
Tout à fait.
Parfois plus tendres, même romantiques, parfois des choses plus dures.
Absolument.
Voilà, c'est... Oui.
Non, c'est une belle harmonie.
Merci. Alors, on arrive bien sûr dans tout le XXe siècle, et là quelques-uns, bien sûr, Robert Desnos qui était mort en camp de déportation. Quand on l'a libéré de son camp, il avait le typhus, il est mort quelques jours après. Desnos, on a une ou deux, quelques photos de lui où on le voit d'ailleurs avec ses yeux assez pâles. D'ailleurs, il avait toujours l'air de dormir un petit peu. C'est pour ça que je pense que Breton l'aimait bien dans l'équipe des surréalistes avec l'écriture automatique dont on parlait tout à l'heure. Et d'ailleurs, ses yeux pâles délavés qu'on ne voit qu'en noir et blanc. Il y a Kiki de Montparnasse qui était modèle pour toute l'équipe de cette époque. La première fois qu'elle l'avait vu, elle lui avait serré la main en trouvant pas autre chose comme compliment de lui dire « Oh, vous avez des yeux d'huître ». Voilà, vous voyez, son bleu délavé. Voilà ce qu'elle avait dit à Robert Desnos. Alors, de Robert Desnos, le verre brisé. Ce verre brisé sur la table a son histoire, sa petite histoire comme vous et moi. D'abord, c'était un verre à pied, un verre qui n'a pas trouvé chaussure à son pied. Dans les temps, il fut perdu dans un terrain vague. Il ne s'emplissait que d'eau pure des pluies. D'eau, à vrai dire, souillée par tous les immondices de l'air et du ciel de la ville. Un vagabond trouva le verre et but un soir du vin dans ce verre. Et mourut devant ce verre, et, mourant, brisa ce verre. Mais il est d'autres verres semblables à celui-ci. Il y a d'autres vins à boire dans des vases semblables à celui-ci. Il est par les routes du monde, il est d'autres vagabonds.
Eh bien, avant de poursuivre encore un tout petit peu, finalement, ça passe très très vite, une heure, hein, ce tour du monde et autour du vin et des poètes. Moi, j'ai envie de revenir par l'actualité, par les temps qui sont les nôtres aujourd'hui, sur la force et l'action de la poésie, et notamment ce thème qui pourtant a été choisi il y a quelques mois déjà, hein, l'insurrection poétique, donc. J'aimerais d'abord que tu nous dises un petit peu ce que toi tu penses de ce thème-là, et puis comment on situe l'action de quelqu'un qui promeut la poésie dans un contexte sociale, politique, dans l'éducation telle qu'on la voit aujourd'hui.
Oui, alors ce thème de l'insurrection poétique, c'est un bon thème parce que c'est vrai que la poésie ne fait pas de politique, elle est vraiment dans le périmètre intime de l'être humain, donc elle n'en a que plus de poids, plus de portée. On voit avec tout ce qui s'est passé, il y a des bonnes questions posées, des réponses, mais après on va voir ce qui va se passer. Puis il y a aussi des récupérations qui essayent de se faire, hein, mais ça c'est l'humain, c'est comme ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des poètes qui sont morts pour leurs idées. Je pense à Garcia Lorca, par exemple, ou à d'autres encore. Mayakovsky, après la Révolution d'Octobre, voyant le totalitarisme, la chape de plomb venir sur son pays, qui s'est tiré une balle dans la tête à 35 ans, parce qu'il rêvait de rapports humains entre les hommes, etc., de liberté. Et il y en a beaucoup d'autres. Jusqu'à Abdelatif Labi, poète marocain, qui s'est fait connaître en écrivant ses lettres de la citadelle quand il était les geôles sous Hassan II au Maroc et qu'il écrivait à sa femme. Il y a beaucoup d'écrivains et de poètes qui ont été en prison. Certains même, comme Oscar Wilde à son époque, pour homosexualité. Il ne faut pas oublier ça aussi. Hein. C'est quand même des choses terribles. Donc l'insurrection poétique, pour moi, c'est vrai que c'est une langue et c'est un moyen de faire connaître des idées et de se battre justement avec son cœur pour se l'arme et pas avec des fusils ou autre chose. D'ailleurs, toutes les dictatures et les pouvoirs totalitaires craignent les intellectuels et les poètes. C'est pour ça que ce sont les premiers, ils sont en première ligne, bien souvent. Voilà. Et l'insurrection poétique, pour moi, c'est aussi faire bouger les mentalités. C'est pour ça que c'est important, comme toi, Christiane, à la tête de la médiathèque départementale, de faire, par exemple, pour le printemps des poètes, chaque fois, plusieurs fois, tu m'as envoyé même dans des petits villages, animer des soirées poésie, faire des ateliers autour du livre d'artiste. Et moi, j'y vais volontiers parce que c'est important. Et là, il faut montrer que la poésie, c'est pas seulement l'après-midi à 5 heures en buvant le thé, le petit doigt en l'air. Hein, c'est que ça fait partie de la vie, hein, ce qui est important.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait, merci. Je vais te laisser la parole encore quelques minutes, mais je voudrais quand même juste retenir, moi, de ce petit panaché-là fort agréable, de phrases que tu as citées. Hein. « J'ai fait de l'œil à toutes les raisons d'agir », a dit Pessoa. Et ça, c'est quelque chose que je vais bien garder là, présentement. Et puis, on va peut-être dire quand même que, suivant Guillaume Apollinaire, hein, en faisant... Il est grand temps de rallumer les étoiles.
Et voilà.
Et maintenant, je te laisse poursuivre.
Merci. Alors là, justement, je parlais des poètes qui avaient payé cher, des intellectuels, notamment Nazım Hikmet, hein, écrivain et poète né à Salonique en 1902, mort en 1963, qui a passé la moitié de sa vie en prison. Hein, donc, c'est quelqu'un d'important. Et lui, au sujet du vin, il était assez radical. Voilà quelques lignes. « Tu es mon ivresse. De toi, je n'ai point dessoulé, je ne puis dessouler. » Je ne veux point dessouler. Ma tête lourde, mes genoux écorchés, mes vêtements crottés. Je vais vers ta lumière qui brille et qui s'éteint, en titubant, tombant, me relevant. Alors on passe à Jeanne Guilvic, qu'on appelait Guilvic, que j'avais bien connu il y a une quinzaine d'années, ou un peu avant sa mort, à la fête du livre d'Aix-en-Provence, où Annie Terrier, avec les écritures croisées, l'avait invitée. Elle a invité beaucoup de belles personnes d'ailleurs. Guilvic qui écrit, ça s'appelle « La bouteille ». Et si tu n'étais plus qu'une bouteille, imaginez. Bien sûr, la même ligne, ta couleur de bouteille, la lumière au travers, l'horizon pour patrie. Partie ton contenu de vin, de tourbillon, versable dans le verre, rien qu'un spectacle inoffensif. Alors maintenant, on va passer à quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Francis Ponge, qui a une écriture, vous verrez, assez spéciale, c'est assez analytique. Et j'aime bien la façon dont il parle du vin, ça s'appelle le vin. Le rapport est le même entre un verre d'eau et un verre de vin qu'entre un tablier de toile et un tablier de cuir. Sans doute est-ce par le tanin que le vin et le cuir se rejoignent. Mais il y a entre eux des ressemblances d'une autre sorte, aussi profonde. L'écurie, la tannerie ne sont pas loin de la cave. Ce n'est pas tout à fait de sous terre qu'on tire le vin, mais c'est quand même du sous-sol, de la cave, façon de grotte. Le vin est un produit de la patience humaine, patience sans grande activité, appliquée à une pulpe douceâtre, trouble, sans couleur franche et sans tonicité. Mais par son inhumation et sa macération dans l'obscurité et l'humidité des caves ou grottes,
du sous-sol, l'on obtient un liquide qui a toutes les qualités contraires, un véritable rubis sur l'ongle. Et à ce propos, je dirais quelque chose de ce genre d'industrie, de transformation, qui consiste à placer la matière au bon endroit, au bon contact, et à attendre un vieillissement de tissu. Le vin et le cuir sont à peu près du même âge, des adultes, déjà un peu sur le retour. Un texte d'André Fresneau, qui est né en 1907 et mort en 1993, et... Donc, c'est tiré de « La grande soif » d'André Fresneau, de Pascal Comer, qui est poète contemporain, avec qui je fais des livres aussi, bourguignon comme lui, et donc qui a cité ce poème d'André Fresneau. C'est le poème du 14 juillet. « Le rouge des gros vins bleus, la blancheur de mon âme, je chante les moissons de la République sur la tête des enfants sages le soir du 14 juillet. » Et l'ivresse de fraternité des hommes dans les rues, au carrefour des rêves de la jeunesse et des soupirs de l'âge, au rendez-vous de la mémoire et des promesses, dans le reverdissement de l'espoir par la danse. C'est aujourd'hui. Nous le partageons en un banquet, sur de hautes tables avec des litres. Le monde est en liesse, buvons et croyons. Je bois à la joie du peuple, au droit de l'homme de croire à la joie au moins une fois l'an, à l'iris tricolore de l'œil apparaissant entre les grandes paupières de l'angoisse, à la douceur précaire, à l'illusion de l'amour. Mes mots, mon beau langage, tous les vins que je mûris pour moi, le sang de ma terre et des miens, l'alcool de toutes les villes et du feuillage, épanchement charnu de mes songes les plus réservés qui dorment en bouteille, tombe la foudre et le miracle explose, ma cave resplendit, je suis ivre et je chante. » Alors maintenant, là, c'est un court poème, vraiment quelques lignes d'Abbas Boulal, poète contemporain algérien avec qui j'ai commencé à faire des livres d'artistes dont je parlais tout à l'heure. « Machine populaire », c'est un hommage à la Commune de Paris. « J'ai béni les machines et leurs rouages blêmes quand la pléthore populaire invoque le pain et le vin. Que ne dut-elle invoquer seulement les rêves des anciens, la Commune en ses herbes ?» Alors là, on va bientôt terminer cette émission. Alors déjà, j'ai trouvé 4 dictons météorologiques d'antan, un pour chaque saison. Ronce mouillée à la Saint-Vincent, c'est en janvier, grand deviné. Bourgeon qui pousse en avril, mais peu de vin en baril. Froid mai et chaud vin, et chaud juin, pardon, donne pain et vin. Septembre chaud fait le vin beau. Voilà, je ne sais pas si c'est vérifié tout ça. Alors, il y a des expressions populaires qui sont intéressantes. J'en ai trouvé une, d'ailleurs, c'était au début du siècle dernier, « déboucher une rue ». Alors, déboucher une rue, en fait... Alors, avant, dans chaque petit village, il y avait au moins une petite ville, il y avait, je ne sais pas, une dizaine de bistrots par rue. Et les ouvriers, le soir, en venant de l'usine, ben, ils allaient, puis ils faisaient les bars, voilà, chacun sa tournée. Et donc, j'imagine que le 15 ou le 20 du mois, ils n'avaient plus d'argent, donc ils devaient faire marquer une ardoise. Et déboucher la rue, c'est quand ils avaient leur nouvelle paye, ils disaient « on va déboucher la rue ». Parce que ces derniers jours, peut-être ils n'osaient pas trop passer devant les bars hein, avec tout ce qu'ils devaient. Ils débouchaient la rue, c'est-à-dire qu'ils payaient leurs dettes et puis ils buvaient des coups, ils en refaisaient d'autres. Voilà, c'était déboucher la rue. Alors, si vous voulez, moi je vais simplement terminer par cette phrase d'Alain Frex sur la poésie. Alain Frex que tu connais bien, Christiane, voilà, poète et de la région niçoise. Voilà ce qu'il a écrit et c'est vraiment ce que je ressens, c'est pour ça que j'aime la poésie. Transmettre la poésie, c'est non seulement former des lecteurs, mais également des citoyens, des hommes et des femmes à l'affectivité plus déliée, à l'intelligence plus vive et la pensée plus profonde, attirée par le secret des choses de la vie, une humanité qui questionne sur elle-même.
Eh bien, je pense qu'on ne pouvait pas trouver meilleure conclusion. Merci, Yul, pour cette présence forte et puis pour ces découvertes hein, que nous avons faites ensemble et qui nous ont un petit peu emmenés, alors je dirais pas vers le vin, je dirais vers une forme de pensée, une réflexion, une joie d'être et de vivre aussi. Donc il est temps de se quitter maintenant. Il me reste, je vous redis à tous, souhaite une très très belle année de rencontres, de partage et d'engagement. Le mois prochain, eh bien, nous aurons une lectrice passionnée et passionnante pour continuer nos petites escales dans le Jardin des mots. Bonne soirée.
Voilà, merci de m'avoir invité, Christiane Belœil, donc, et merci à Fréquence Mistral aussi. Au revoir à toutes et à tous.
Bye, 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 bye